Tireurs sont en fuite. Un drame imputé selon les premiers éléments de l'enquête au narcotrafic, alors même que le ministre de la Justice compte déployer plus de moyens pour lutter contre le crime organisé. Dans la tribune du dimanche ce matin, il annonce vouloir créer un tribunal dédié et instaurer un statut de repenti similaire au dispositif italien mis en place contre la mafia. Ce statut permettra aux anciens trafiquants d'obtenir des réductions de peine et une meilleure protection en échange d'une collaboration avec la justice. Une mesure saluée par les magistrats, nous y reviendrons dans le journal de 18h. À Châteauroux, un mineur de plus de 15 ans est en garde à vue interpellé après la mort d'un adolescent tué hier après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Le suspect est soupçonné d'être l'auteur de l'agression. Il est déjà connu des services de police. À Givors, dans le Rhône, situation aussi tendue hier après-midi. Deux voitures de la police municipale ont été incendiées dans la cour de la mairie. Des représailles selon les forces de l'ordre après l'interpellation de 5 mineurs soupçonnés dans une affaire d'agression. À Paris, 300 personnes manifestent en ce moment place de la Bastille, un rassemblement en soutien au rappeur iranien Toumaj Salehi. L'artiste est condamné à mort en Iran pour avoir soutenu dans ses chansons le mouvement de contestation dans son pays. Mouvement débuté fin 2022 après la mort de la jeune Mahsa Amini suite à son arrestation par la police des mœurs. Une délégation du Hamas est attendue demain au Caire en Égypte. Le mouvement islamiste doit se prononcer sur la contre-proposition de trêve par Israël dans la bande de Gaza. Proposition qui inclut une suspension temporaire des combats dans l'enclave palestinienne conditionnée à la libération des otages. Selon un dernier bilan du Hamas, plus de 34 000 personnes sont mortes dans les bombardements israéliens sur Gaza. Le pape en visite à Venise aujourd'hui, le souverain pontife dont la santé est fragile, a réalisé son tout premier déplacement depuis 7 mois. Depuis la place Saint-Marc, il a célébré une messe devant 10 000 fidèles. Il en a profité pour mettre en garde contre le changement climatique et le surtourisme, deux phénomènes dont la cité des Doges est victime, en danger notamment face à la montée des eaux. Depuis cette semaine, l'entrée dans Venise est payante pour les touristes, mesure prise pour limiter l'affluence dans la ville. Le sport, le football et la Ligue des champions et deux clubs français se disputent une place pour la finale. Match retour des demi entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Un but partout pour le moment, c'est la mi-temps. Pour l'instant, si on en reste à ce score, ce seraient les Lyonnaises qui fileraient en finale de la Ligue des Champions. Et puis en Ligue 1, les hommes jouent la 31e journée. Victoire il y a quelques minutes de Toulouse, Nice et Clermont. Il reste 3 matchs dans cette journée. Rennes reçoit Brest à l'instant. À 19h, l'OL reçoit Monaco. Marseille accueille Lens à 21h. En cas de défaite de Monaco, le PSG sera sacré ce soir champion de France, leur 12e titre en championnat.
Le dimanche sur France Inter,
Le Masque et la Plume,
Rebecca Manzoni.
Rendez-vous au cinéma avec les critiques du Masque cette semaine. Nous débattrons d'un polar, d'un nouveau film qui traite du malaise scolaire ou encore de Back to Black, biopic d'Amy Winehouse. Au programme, enthousiasme, désaccord et panache.
Le Masque et la Plume,
tous les dimanches sur France Inter à 20h.
17h03 sur France Inter, l'heure de retrouver le grand atelier avec vous, Vincent Josse.
Bonjour Marion Ferrer, rendez-vous à 18h pour le journal.
C'est ça, tout à l'heure.
C'est une actrice populaire qui suscite toujours l'enthousiasme quand on prononce son nom. Elle est la preuve qu'une comédienne est encore désirée en avançant dans la carrière. D'ailleurs, on va la voir dans de nouveaux films, Un tableau volé de Pascal Bonitzer qui sort mercredi et Un homme en fuite, premier long métrage de Baptiste Debrault le 8 mai. L'offre qui lui est faite au cinéma n'empêche pas son désir de théâtre de se réaliser. Elle dit souvent oui à Michel Faux ou Zabou Bretman et s'épanouit aussi sur les planches pourvu que les rôles soient divers. Césarisée pour Jusqu'à la garde en 2019, elle est experte en art dans le tableau volé de Pascal Bonitzer et enquêtrice dans Un homme en fuite de Baptiste Debrault. Bonjour Léa Drucker.
Bonjour.
Votre invité est un cinéaste flamand. Il vous a fait tourner dans Close où vous étiez la mère d'un jeune garçon qui se sentait coupable du suicide de son meilleur ami. Ce cinéaste, c'est Lucas Donte, auteur également de Girl. On le joint tout à l'heure par téléphone. Il est dans les Flandres. Dans le grand atelier, j'évoquerai aussi la mémoire d'un immense photographe qui vient de disparaître, Pierre Gonnord. Et je vous conseillerai un documentaire sur une actrice de théâtre franco-argentine, Marilou, alias Marilou Marini. C'est un très bon film de Sandrine Dumas. Bienvenue dans le grand atelier.
France Inter. Le grand atelier. Vincent Josse.
C'est dommage de ne parler parfois de l'œuvre des grands artistes qu'une fois leur mort annoncée, c'est pourtant ce que je fais, je le reconnais, en évoquant la mémoire d'un de nos plus grands photographes, Pierre Gonnord. Une leucémie l'emporte à 60 ans, à Madrid, où il vivait. Sa mort interrompt brutalement une œuvre exceptionnelle commencée après des études de commerce et une dépression liée à la mort d'un frère. Ses proches lui conseillent alors la photo, il découvre le portrait et se prend de passion pour l'image et les rencontres. Des communautés, des groupes, des familles, des institutions. Il va vers celles et ceux qu'il ne connaît pas et semble loin de lui, de sa vie. Lui, le garçon né à Cholet en 1963. Regardez bien ces mineurs, ces punks, ces drogués, ces sans-abri qui, vus par lui, deviennent princiers. Ces sportifs, après le match qu'il assoit, et fait poser en recherchant l'écho de l'effort sur leur visage. Nous regardons tous ces humains qui nous regardent aussi, gitans inoubliables, semblables à des seigneurs. C'est comme ça que Pierre Gonnord les voit. Je rencontre, je parle, et par la photo, j'interprète.
Les gens que je prends en photo, généralement, quand vous voyez mon travail, ce sont des gens qui vivent pas dans les endroits où on vit tous dans les villes. Je vais à la recherche de personnes qui vivent dans d'autres communautés, qui sont tout aussi vivantes que les nôtres, mais qui sont bien enracinées dans une identité. Je suis allé voir, par exemple, les derniers travailleurs mineurs de charbon, qui finalement ont été le tissu industriel de mon enfance. Et j'avais besoin de les écouter, puisqu'en Espagne, ils vont disparaître, de voir comment ils travaillent, et puis aussi de leur rendre un hommage, et d'être témoin et de montrer leur visage au reste de la société, puisque c'est un pan de société qui va disparaître. Ou les gens très ruraux, les ouvriers agricoles, qu'ils soient gitans ou pas gitans, à cette frontière merveilleuse du Guadiana entre l'Espagne et le Portugal, qui voyagent par des chemins hors des autoroutes, on les voit pas, et j'ai décidé d'aller les voir et de montrer leur beauté, leur dignité, leur orgueil, chez les plus anciens, chez les enfants, etc.
La vision que Pierre Gonnord donne de l'autre est toujours noble. C'est une photo picturaliste qui, par ses clairs obscurs, s'inspire ouvertement de la peinture des maîtres qu'il admire, le Caravage, Velázquez, Rembrandt. Le format du tirage est grand, souvent, on est happé par ses visages. En plus des yeux dont rien ne nous échappe, le moindre pli, la moindre ride est semblable à un paysage, un décor. On dirait que j'entre en l'autre et que l'autre devient moi. Espérant qu'un grand lieu, à Paris et ailleurs, lui offre la rétrospective qu'il mérite, il faut impérativement découvrir ou retrouver l'incroyable talent du portraitiste Pierre Gonnord.
Décontracté, super, j'adore, c'est en noir, le cuir noir, ça rend super bien. Je vais vers vous, c'est vous bougez pas, hein, c'est moi qui vais vers vous. Baissez un petit peu le visage.
Léa Drucker, est-ce que vous connaissiez Pierre Gonnord, le photographe ?
Non, je ne connaissais pas, mais j'ai entendu parler de lui parce qu'il a, comme, enfin, il vient de
mourir.
Et donc j'ai vu un article dans Libé qui racontait, et puis je suis allée voir, avant de venir faire l'émission, les images.
Les fameux gitans, SDF, etc.
Et j'ai été saisie, en tout cas, par la force de ses portraits et par le classicisme et la façon qu'il a de plonger dans les regards de ces personnes. J'aime bien quand on l'entend dire « je vais vers vous ».
Oui.
C'est très beau, ça.
Il y a vraiment l'envie d'une rencontre. Et la photo, l'appareil photo est presque un alibi pour rencontrer des gens qu'il ne connaît pas.
Oui. Et ça, on le sent quand on voit ses portraits. Puis moi, ça me parle beaucoup parce que l'idée d'aller vers quelqu'un, c'est un peu ce que nous, on essaye de faire.
Ah, c'est proche de la démarche du comédien.
Bah oui, alors je pense que lui, il est peut-être encore plus dans une proximité, avec peut-être encore plus de courage, puisque apparemment, j'imagine que pour les saisir comme ça, il devait apprendre à vraiment les connaître. Et puis pour que les gens puissent se livrer intimement, il faut vraiment faire que ces personnes fassent confiance. Donc je pense que c'est un très gros travail. Et puis c'est aussi une force d'humanité, quoi.
Oui, c'est vrai que ça se rapproche aussi de vous, parce que vous cherchez finalement le gros plan sur quelqu'un, à comprendre ce que vous allez interpréter, et lui était en gros plan.
Oui, sauf que nous, les acteurs, c'est plutôt au service pour raconter une histoire.
Oui, mais il faut connaître le caractère ou l'inventer.
Voilà, s'il n'y a pas assez de choses écrites dans le scénario, on peut nous l'inventer. Mais lui, ce photographe, apparemment, c'était aussi une de vivre avec, carrément,
oui,
hein,
j'ai l'impression. Il y passait du temps, oui, c'est vrai. Mais vous passez aussi combien?
Oui, on passe du temps, mais on passe du temps avec notre imaginaire aussi.
Oui.
C'est-à-dire, c'est plutôt de l'imaginaire.
Oui, il y a quelque chose à composer.
Oui, et puis c'est vrai que si on essaye de bien faire notre travail, il faudrait être curieux chaque jour, quotidiennement, et pouvoir être ouvert aux conversations avec des personnes qui sont pas du tout du métier. Et puis voilà, d'être sensible, quoi, de maintenir cette sensibilité. Pour ça, il faut rester curieux.
C'est ce que vous faites, parce que vous m'aviez emmené notamment chez une peintre.
Oui.
En banlieue parisienne, Nina Childress.
Nina Childress,
parce que vous
j'adore.
Êtes curieuse d'art contemporain, de ce qui se passe autour de vous dans le domaine de la culture, et je pense que, évidemment, ça nourrit votre interprétation.
Oh oui, je pense que ça... On n'en a pas conscience tout de suite, mais on voit quelque chose de beau, enfin quelque chose que nous, enfin que moi je trouve beau, ça c'est très subjectif. Et puis alors ensuite, il peut arriver qu'un jour, sur une scène, ah tiens, j'ai ce tableau qui me revient en tête, ou cette chanson, ou cette rencontre avec cette personne, et ça vous apporte une émotion.
Mmh.
Alors c'est sûr que si on reste enfermé chez soi toute la journée, ou à vivre que dans un carcan, tout ça, on se ferme un petit peu. Pour les
tous comédiens, les comédiens ne fonctionnent pas de la même manière, mais... Je me souviens que Serge Bagdasarian de la Comédie Française, il a besoin d'aller au Louvre pour voir un tableau précis.
Ah
et
oui.
Il s'inspire des couleurs, il imagine le parfum du portrait qu'il est en train d'admirer pour un rôle.
Ah ben ça, je comprends. Chaque acteur et chaque actrice a sa méthode. Moi, je sais que la musique fonctionne bien aussi pour moi. Et puis, des fois, c'est des scènes de films que j'ai vues qui m'inspirent quelque chose, ou tout simplement l'envie d'être à la hauteur d'une personne qu'on admire aussi.
Ah oui.
Des fois, quand on faiblit, je me dis « Attends, mais comment Daniel Day-Lewis aurait fait ça ?» Alors voilà, alors hop, je pars sur une piste.
Simone Signoret disait « Il faut que je trouve quel sac mon personnage portait ou pourrait porter, et à partir de ça, elle allait mieux. »
Oh, ça, c'est drôle.
C'est drôle, hein.
Bah ouais.
On va écouter, peut-être que ce sera une musique qui restera aussi dans votre tête pour un rôle. Malik Djoudi, c'est un nouveau titre sur France Inter, c'est Vivant.
Je suis enfin vivant. Vivant comme je l'aime. Des questions sur tout, les doutes qui s'ajoutent.
C'était donc Malik Djoudi sur France Inter, Vivant.
Le Grand Atelier. Vincent Josse sur France Inter.
Je vous le disais, deux films sortent avec Léa Drucker au générique, Le tableau volé et Un homme en fuite. Il est question du marché de l'art dans le film Un tableau volé de Pascal Bonitzer. Vous et votre ancien mari, Alex Lutz, êtes expert en art. Vous êtes divorcés, mais vous travaillez toujours ensemble. On aurait retrouvé une toile de Egon Schiele, l'Autrichien Egon Schiele, chez un jeune ouvrier. L'expert Alex Lutz vous apprend la nouvelle, Léa Drucker, alors que vous prenez un bain dans un hôtel à Lausanne.
Oui.
C'est quoi ce truc?
Eh ben, il paraît que c'est un Schiele.
Oui, j'ai vu. Ça vient d'où?
De Mulhouse. C'est un jeune ouvrier chimiste de 30 ans qu'il a chez lui. On n'en sait pas plus.
99%, c'est un fou.
Ah, pas 100%.
Sur téléphone, je dis pas 100%.
Des Schiele, il y en a eu en circulation ces dernières années.
Des faux, oui. Pas mal fait. Mais l'analyse chimique a révélé des pigments postérieurs à 1970.
Il fait comment à Lausanne?
Moche. Je suis dans mon bain, j'ai envie de me noyer dedans. Je suis sans amour, et quand je suis sans amour, j'ai envie de mourir. Et à Paris?
À Paris, il fait beau.
Bonne nuit.
On rit chez Bonitzer, hein. C'est l'auteur entre autres de Rien sur Robert, je ne vais pas citer toute sa filmographie, ça a été le scénariste de Téchiné, de Rivette et de Ruiz entre autres, et il a une science des dialogues mais aussi de l'humour.
Oh bah oui, il a beaucoup de légèreté, Pascal Bonitzer, pour raconter des choses à la fois, en même temps c'est très précis et très investi, par exemple dans ce film où il décrit un monde qu'on ne connaît pas bien,
mais
c'est
pas
une comédie
tout.
Un peu immersive sur le monde de l'art et des ventes aux enchères.
Oui, parce qu'il y a deux choses, il y a la découverte du tableau,
oui.
La rencontre avec le jeune ouvrier et sa mère qui ne savaient pas du tout qu'ils avaient ça chez eux. C'était à l'ancien propriétaire. On est quand même sur fond de biens juifs spoliés durant la guerre, mais le sujet, ce n'est pas tellement ça. C'est qu'est-ce qu'on va faire de ce tableau? Combien on va le vendre? Est-ce que sa place dans la société sera plus importante après, etc. Et vous avez un rôle, tous les deux. Votre ex et vous.
Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, on est des experts, donc on est un peu dans un monde où se joue, enfin, un peu, où il y a un peu d'arrogance, un peu de cynisme, parce que c'est un monde d'argent aussi, c'est-à-dire que c'est en même temps à la fois des gens qui sont à la recherche de la beauté, de l'art, et en même temps qui sont dans le
pur capitalisme.
Dans le pur capitalisme. Donc ils sont un petit peu cyniques comme ça, mais à la fois, ce que j'aime bien chez Pascal Bonitzer, c'est qu'il les raconte à travers ce scénario, quand même, avec une profondeur et une humanité au final dans cette quête de ce tableau, de l'authenticité de ce tableau, mais surtout de la rencontre entre deux univers sociaux, différents, celui de le nôtre, le monde de l'art, et celui de que joue Arkadir, du monde d'Arkadir Radef,
jeune comédien Keller, formidable.
Il est formidable, ouais. Arkadir Radef, qui joue ce jeune ouvrier qui vit avec à Mulhouse
avec sa maman,
qui est joué par Laurence Cotte, et qui eux ne connaissent rien au monde de l'art. Et qu'il se trouve qu'ils ont un tableau qui aurait une valeur inestimable,
oui, alors,
d'Egon Schiele.
Personne n'y croit, sauf quand Léa Drucker et Alex Lutz, en tout cas leur personnage, arrivent dans cette maison. C'est dans quelle ville?
C'est à Mulhouse.
À Mulhouse. Et voilà la scène quand ils tombent sur le tableau.
Je suis désolé, non, c'est... On se moque pas de vous, madame.
Enfin, même si c'est une très mauvaise contrefaçon, on se conduit pas comme ça.
C'est nerveux. C'est nerveux.
Le tableau est vrai. Il est vrai. Et c'est hallucinant. C'est une chose comme on n'en voit qu'une seule fois dans sa vie.
C'est un tableau très connu. C'est un chef-d'œuvre. On le croyait détruit, il a disparu en 1939.
C'est le chauffage, ça.
Vous l'estimez à combien?
Tu dirais quoi? 10?
12? Au démarrage.
10, 12.
Millions.
Maman!
Et la mère tombe.
Elle s'évanouit.
Quand on entend à la radio ce cinéma de Bonitzer, je me dis qu'il s'est un peu burlesque par moments.
Mais oui, mais ça, moi, j'adore ça. Et à la fois, ça raconte plein de choses. Ça raconte même quelque chose, un fait historique, qui est la spoliation, enfin, l'histoire de la spoliation. Enfin, c'est, mais
Mais pas traité de façon documentaire.
Non, c'est pas le sujet principal.
C'est plus une analyse psychologique des comportements dans ce cas de figure-là.
Oui, et avec... Il faut imaginer que pour nos personnages, celui d'Alex Lutz et le mien, c'est l'événement d'une carrière, c'est-à-dire c'est un événement majeur. Ouais. Et à la fois pour ce duo que forment le Arkady Radev et sa mère, pour eux aussi c'est l'événement d'une vie, c'est-à-dire que leur vie peut se transformer.
Mais la vie n'est plus la même après.
Puis ce qui est très touchant, c'est quand il dit aussi le tableau, ça c'est le chauffage qui a fait ça, parce qu'en fait le tableau est sali par le temps, ne connaissant pas la valeur de ce tableau, ben voilà, il a été noirci et... Et c'est c'est un choc en fait. C'est une scène où tous ces personnages sont choqués et réagissent différemment.
Bonitzer ne néglige personne. Je trouve qu'il n'y a pas que Lutz et vous qui êtes, j'allais dire, bien traités. Je pense à plusieurs, enfin en tout cas au moins à deux personnages féminins.
Il y a Louise Chevillotte.
Voilà, Louise Chevillotte qui est la stagiaire d'Alex Lutz. Leur relation est particulière. Il s'est amusé aussi à dessiner une jeune femme qui démarre avec son ambition et lui qui commence à vieillir un peu dans le métier et qui attend toujours son jour de gloire.
Y a ça. Et puis le personnage de la jeune stagiaire qu'interprète Louise Chevillotte, c'est aussi nous permet à nous, spectatrices et spectateurs, de rentrer dans ce monde.
Oui, parce qu'elle découvre.
Elle le découvre comme celui qui verra le film et qui ne connaît pas cet univers. Et en même temps, Louise, elle joue un personnage que moi j'adore parce qu'il y a un truc sur le mensonge. Elle ment tout le temps et Bonitzer n'explique jamais pourquoi.
Oui.
C'est une jeune femme qui se cherche un peu et puis à la fois elle est dans cette rencontre avec Alex Lutz qui lui est un personnage un peu désabusé par la vie un peu et en même temps qui est profondément seul quoi.
Il y a ça chez Bonitzer, c'est-à-dire qu'il étudie vraiment les caractères, pas simplement la fonction sociale, alors que dans votre métier, elle est très importante, les apparences sont très importantes, mais lui, il va creuser derrière.
Oui, il creuse sur la... c'est aussi des personnages en quête d'amour, tout simplement. Enfin, en tout cas, le mien...
L'entendait, là.
Alors, elle prend des bains, mais en même temps, elle n'a qu'une envie, c'est de trouver l'amour. C'est en même temps quelqu'un d'assez... elle est un peu légère, mais pas de... Je ne dis pas ça de façon péjorative. Hein, mais
elle est plutôt bien dans sa peau, d'ailleurs.
Oui. On sent que c'est une bonne vivante, et elle vient pour l'aider dans cette aventure, qui est comme une sorte... Puis alors, c'est un couple qui n'est plus ensemble, mais c'est aussi un couple qui est tenu par la même passion, qui est toujours tenu par le rêve d'une découverte exceptionnelle,
oui,
et c'est ce qui les réunit toujours.
Ils ne sont pas cyniques. Il n'y a pas de cynisme, je trouve.
Dans le fond, en fait.
Dans le fond, non.
Mais en fait, je suis en train de revenir à mon personnage alors qu'on parlait des autres.
Non, mais
c'est
important, c'est normal. Vous êtes narcissique, vous êtes une artiste.
Je parlais du couple, en fait, bien sûr. Mais il y a plein de personnages. Il y a aussi le personnage d'Alain Chamfort, qui est le père de Louise Chevillotte.
Alors justement, il est très doué pour le casting, Bonitzer, je trouve.
Il est magnifique, Alain Chamfort.
On m'a cité les comédiens. La stagiaire Louise Chevillotte, qui est formidable. Il a réalisé Rien sur Robert, je disais, Les Envoûtés, tout de suite maintenant. Il a même fait effectivement jouer Chamfort dans ce film, dans le père de la stagiaire, et je trouve que c'est une révélation. Il est très à l'aise, il est évident dans ce rôle.
Complètement. Et il a un charme
timide,
fou.
Oui,
et puis il a un énormément de charisme, et j'aime beaucoup ce que raconte le film sur cette histoire de filiation, en fait, à travers ces deux personnages de père et fille qui ont du mal aussi à se dire la vérité. Enfin, il y a quelque chose de très beau et de très touchant.
Il y a un autre film qui n'a rien à voir avec les thèmes abordés dans le film de Bonitzer. C'est Un homme en fuite. C'est pas une comédie. C'est, je dirais, à la fois un polar et un film social. On est dans les Ardennes. C'est l'hiver. C'est rude. Vous êtes flic. Vous recherchez un meurtrier qui s'est enfui. Qu'est-ce qui vous a fait dire oui à ce premier film d'un jeune cinéaste qui s'appelle
Baptiste Debrault.
Premier film.
C'est son premier film. Mais c'est la rencontre avec Baptiste. J'ai reçu une lettre, en fait. J'ai reçu un scénario et une lettre. Et j'ai aimé le scénario. Et puis j'ai beaucoup aimé sa lettre parce qu'il s'investissait beaucoup dans ce qu'il m'en racontait de lui. Enfin, il y avait quelque chose, je sentais, sans avoir les détails, mais qu'il y avait quelque chose de très personnel dans ce qui était raconté dans ce film. Et qu'il venait vraiment des Ardennes, d'une petite ville qui s'appelle Fumet. Enfin, qu'il avait. Voilà, il a été scolarisé là-bas, enfin, toute son enfance et son adolescence. Donc c'était quelque chose de... Bon, moi j'aime bien quand c'est quelque chose qui est connecté à un truc.
Ça peut permettre de dire oui.
Bah oui, puis après je l'ai rencontré et on s'est bien entendu. Enfin, c'est-à-dire que je sentais qu'il y avait une envie très très sincère et très forte de raconter cette histoire, que je trouvais originale parce que C'est un polar social. Mmh. Et ça, je trouve que c'est un angle qui, moi, m'intéressait beaucoup. Parce que le polar, on connaît plein de... Là, il y a une histoire, il y a quand même un fond, il y a l'histoire aussi d'une révolte sociale derrière qui est mélangée à un thriller.
Je vais préciser de quoi il s'agit sans donner trop de détails, parce qu'il faut les découvrir. Vous êtes chargé de retrouver Johnny, qui est joué par Pierre Lottin.
Oui.
Il est suspecté d'avoir braqué un fourgon, tué un homme, volé de l'argent. Mais l'histoire est plus complexe et une histoire bien plus vaste se dévoile. Elle va dépasser ce personnage. On découvre une région pauvre, une usine en grève et deux amis d'enfance. Ça, c'est au cœur du film. Le fameux Johnny avait un meilleur ami, enfant, qui réapparaît pour venir l'aider, le sauver, le dépanner, l'entourer. Et cet ami est devenu quelqu'un de connu. Il est écrivain à Paris. Il est le seul de cette bande à être parti des Ardennes. Et vous parlez, à ce moment-là du film, à cet écrivain qui vient aider le suspect, joué par Bastien Bouillon, l'écrivain.
Si vous cachez Johnny... Si vous avez quelque chose à voir avec la distribution de l'argent, je finirai par le prouver, vous savez. Si vous voulez vous en sortir, vous devez coopérer. Je comprends pourquoi ils se battent tous. Mais cette fois, Johnny est allé trop loin, il a tué un homme, Paul. Vous faites une erreur.
L'erreur, je l'ai faite il y a 15 ans.
Qu'est-ce que vous foutez là? Vous dégagez!
On n'est pas dans une histoire de pirates, c'est pas un conte pour enfants.
Vous êtes sûr?
Voilà, c'est beau, ce Paul qui, adulte, revient chercher à aider ce Robin des Bois local, parce qu'il a envie que son usine fonctionne, que les gens retrouvent une dignité et de l'argent, cet homme qui est recherché.
Ouais, oui, ce que dit le personnage que j'interprète, s'appelle Anna, lui dit c'est pas un conte pour enfants. Donc il y a aussi quelqu'un, ce personnage qu'interprète Bastien, qui aussi revient qui revient vers son enfance.
Oui.
Et tout ce qui s'est noué, c'est très très important, l'enfance, les amitiés qui se nouent à cet âge-là, c'est quelque chose qui nous détermine, je crois. Donc lui, Bastien, le personnage de cet écrivain, il revient aussi vers ça et c'est aussi comment il essaye de se reconnecter à ce qui finalement a fait ce qu'il est devenu aussi. Et ce Johnny a une part très très importante finalement, je crois, dans son désir d'être écrivain. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu le film et quand je voyais ce que faisait Bastien. Je me dis, en fait, c'est ça. Il y a quelque chose de très romanesque, en fait. Il y a un truc sur comment notre vie, même la plus abrupte, peut se raconter de façon romanesque, surtout puisque son personnage est un écrivain. Donc, c'est aussi. Mais là, l'arrière-fond, qui est essentiel, d'ailleurs, c'est peut-être le sujet central du film, de cette révolte sociale, de ce que fait Johnny pour sauver cette usine et dans cette petite ville des Ardennes. Ça, c'est très concret, c'est très réel. On n'est pas dans le roman, là.
Il y a plusieurs époques. Il y a l'enfance, il y a les jeunes adultes qu'ils ont été, ces deux amis, et puis il y a aujourd'hui, avec cette femme que vous incarnez et qui enquête. On va écouter The Last Dinner Party, c'est un groupe de rock indépendant de Londres. Ils chantent On Your Side, c'est le grand atelier sur France Inter.
I know I'm better off not looking back. Forgive me, Father, won't you take it back. Shut
Direction les Flandres, où un cinéaste est avec nous. Bonjour Lucas Donte.
Bonjour.
Vous êtes où ?
Hello Lucas.
Ah voilà, vous entendez les Drucker.
Je suis à Gand là.
Vous êtes à Gand.
Oui, où j'habite. Donc oui, vraiment en Flandre.
Alors j'aurais espéré vous avoir avec nous parce que je vous ai pas encore rencontré, mais on vous entend très bien, la liaison est parfaite. Et Léa Drucker me dit, en plus, Lucas, en plus d'être un garçon intéressant, un cinéaste remarquable, il est très beau.
Oui, c'est vrai.
Ah oui, ah, mais
vous êtes en train de rougir.
Oui, vous pouvez pas me voir, mais je rougis là. Je suis un peu gêné. Mais merci beaucoup de dire ça, voilà. Léa.
Vous êtes un cinéaste.
C'est pas que pour ça que j'ai travaillé avec toi.
Je vais juste préciser que vous êtes un cinéaste
de
32 ans, déjà très récompensé, déjà très chouchou du Festival de Cannes, puisque vous avez remporté entre autres la Caméra d'Or pour Girl et le Grand Prix du Festival de Cannes pour Close. Je me permets de préciser que Girl, c'est l'histoire de Lara, qui est une adolescente introvertie qui s'impose une discipline très stricte pour devenir danseuse étoile. C'est une jeune femme trans, assignée homme à la naissance, et on va suivre son parcours compliqué, douloureux, courageux, son quotidien de jeune fille qui prend des hormones et attend la chirurgie. À partir de ce film-là, vous vous êtes dit, tiens, Lucas Donte, c'est quelqu'un qui m'intéresse et j'aimerais travailler avec lui. Est-ce que c'est aussi simple que ça ?
C'est aussi simple que... En fait, j'ai vu le film quand c'est sorti, peut-être le premier jour de sa sortie. J'étais dans la salle et quand je suis sortie de la salle, j'étais bouleversée et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais travailler avec un metteur en scène qui fait un film comme ça.
Qu'il avait quelle qualité, selon vous ?
En fait, il y a quelque chose qui m'a... J'ai adoré tout le film, mais il y a quelque chose qui m'a particulièrement plu, c'était le personnage que jouait Harry Vartaler, c'est-à-dire le père, et j'aurais voulu jouer ce personnage-là, en fait. Mais c'était beau, parce que c'était lui le père, et j'ai aimé la façon dont Lucas racontait cette histoire, où le conflit n'était pas dans la famille, mais il était sur tout ce qui se passe entre le personnage de Lara et l'extérieur. Mais ça venait pas de la famille, du père. Le père était... très accompagnant et un vrai soutien et bienveillant. Et je trouvais ce parti pris magnifique.
Et souvent,
ça m'avait vraiment
bouleversé. Dans vos deux films, les parents ou un des parents sont très proches de leurs enfants, Lucas Donte. Est-ce que vous avez eu des parents idéaux comme ça, vous ?
Je pense que j'ai eu des parents qui ont vraiment essayé d'être là. Qui bien sûr ont aussi leurs propres sont des enfants aussi des autres parents, donc ont aussi leurs complexités à eux. Mais pour moi, c'était important dans les deux films de pouvoir parler des personnages qui sont en combat un peu avec les codes sociaux et pas nécessairement juste avec des antagonistes comme des parents. Pour moi, c'était beaucoup plus large si je cherchais en fait. Les conflits dans ce film entre les corps des personnages et ce que ces corps ont comme normes et comme codes dans cette société. Donc pour moi, c'était important d'avoir aussi des personnages autour d'eux qui leur accompagnent, qui essaient de leur comprendre, qui essaient de leur soutenir d'une manière et au même temps qui voient qu'il y a quelque chose qu'ils voient pas, qui va pas. Et c'est pour ça peut-être que j'ai décidé dans les deux films de leur écrire aussi d'une manière avec la même complexité que les personnages principaux. Ça, c'était pour moi important.
Close, qui a été récompensée à Cannes, raconte l'amitié forte entre Léo et Rémi, une amitié qui va d'abord interroger les copains et les copines d'école. Léa Drucker disait que dans vos films, c'est l'extérieur qui est menaçant plus que les parents. Et on va écouter comment réagit l'un des enfants, Léo, aux réactions justement de ses camarades d'école.
Est-ce que vous êtes ensemble ?
Non.
Mais pourquoi tu rigoles ?
Mais pourquoi il rigole ?
J'en sais rien, juste.
Non, c'est juste que ça m'intéressait parce que vous aviez l'air grave proche pour de meilleurs amis, du coup, voilà. Mais c'est pas méchant.
Bah non.
Pourquoi on rigole ?
Mais pourquoi tu dis ça ?
Parce que ça se voit.
De quoi ça se voit ?
Mais vous êtes en couple ? Enfin, je sais pas.
C'est vrai qu'on se tient la main, qu'on se fait des câlins ? Non. C'est comme si je disais, vous deux, vous êtes ensemble parce que vous êtes des trucs de filles.
Ah, non,
mais c'est comme... Non, c'est...
Non,
en fait,
mais...
vous
vous êtes assis et en fait vous êtes proches comme ça.
Bah on s'est rapprochés parce que c'est meilleur ami.
Juste une question, hein.
Je pense qu'ils sont meilleurs amis plus, genre.
Ouais.
Mais plus, non. Fois plus.
Oui, on est plus, mais genre même quasiment frères, c'est pas...
On non,
pas...
là, c'est même plus frère.
Mais est-ce que c'est depuis longtemps?
Bah peut-être que vous assumez pas.
Mais non, c'est bon, juste arrêtez d'en parler, s'il vous plaît. Juste, non, on n'est pas en couple. Sûr et certain.
Ça va, c'est une discussion qui n'en vaut pas la peine.
On pose juste une question et...
Si un jour ils seront en couple, ils auront envie de vous le dire.
C'est par curiosité,
J'observe Léa Drucker en studio là à Paris et vous avez un sourire tendre, attendri en entendant ses enfants. Je précise que vous jouez la mère de ce petit garçon Léo qui est très perturbé par ce qu'il entend là.
Oui, mais je souris parce que d'abord j'entends les enfants jouer et je les trouve hyper tellement justes et j'essaie de réfléchir. J'étais pas là pendant ces scènes-là, ces séquences, mais j'essaie de réfléchir comment Lucas a dirigé pour obtenir cette justesse et comment raconter en effet. Cette chose, le fait que c'est l'extérieur qui raconte à ces deux jeunes garçons que l'extérieur veut résoudre l'énigme de leur relation,
leur amitié est ambiguë.
De ce qu'est leur amitié, qu'eux-mêmes n'ont pas toutes les réponses à les questions qu'ils se posent eux-mêmes, à la tendresse qu'ils ont, la tendresse réciproque qu'ils ont l'un pour l'autre. Et je trouve ça très très juste dans l'écriture et tellement juste dans l'interprétation. Et j'étais en train d'imaginer comment ça avait été.
On va lui demander.
Et puis j'étais très attachée à ses enfants, bien pour sûr. Certains que j'ai rencontrés.
Lucas, donc, comment on dirige des enfants sur cette scène précise?
Oui, c'était une scène très très important pour nous. C'est une scène clé où il y a plusieurs choses qui sont l'essence de les raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce film. D'abord, c'est cette idée qu'une intimité entre des garçons immédiatement est regardée comme quelque chose lié à leur sexualité. Et après, bien sûr, c'est aussi une scène où où qu'on connaisse tout peut-être, ou quand nous sommes jeunes, il y a des autres personnages qui semblent savoir plus sur nous que nous-mêmes. Et nous, on a cherché longtemps à trouver des enfants qui pouvaient, où je sentais la possibilité de travailler avec. On a fait des castings pendant des mois. Après, on a vraiment créé une classe de 17 enfants. Et avec eux, on a vraiment travaillé. On avait un coach aussi merveilleux avec les enfants. Et en fait, je pense, c'est aussi pour les comédiens adultes que je travaille comme ça, mais je cherche de vraiment trouver une manière qui reste assez proche d'eux. Je cherche à vraiment créer une intimité. Je cherche à créer un plateau où il y a une sorte d'aspect documentaire. Donc, quand on a filmé cette scène, en fait, les jeunes, ils savaient un peu le contexte du scène, mais ils savaient pas tous les phrases. Ils savaient pas exactement à ce moment je dois dire ça ou ça. Et en fait, je leur avais demandé dans les castings si vous pouviez jouer un rôle. Ça serait quel rôle? Et par exemple, la fille que tu entends parler là, qui demande la question, hein, est-ce que vous êtes en couple? Et en fait, qui pousse un peu, c'est quelqu'un qui m'avait dit pendant les castings, moi, j'aimerais jouer quelqu'un qui est vraiment un peu badass, tu vois, qui est un peu bitchy, tu vois. Et je disais, ah, mais c'est parfait parce qu'en fait, elle a un désir, elle a une envie de jouer ça ou de jouer avec ça. Et en fait, c'est la personne idéale d'être le moteur de cette scène. Et le moment même, quand on tourne, en fait, je donne la parole à elle. Je la donne l'opportunité et je la donne le pouvoir,
oui, c'est ça,
de créer la scène.
Ça semble évident quand vous dites ça, mais on imagine le boulot, ouais. Léa Drucker. Vous, il vous a dirigé aussi, même si vous avez un petit rôle, mais vous avez choisi d'aller malgré tout, ouais, dans ce film. Et ça, vous le faites souvent.
Avec tout.
Avec tout et avec tous. Vous n'avez pas forcément besoin d'un premier rôle pour être épanoui et pour être heureux sur un tournage.
Non, en fait, c'est-à-dire qu'il y a la cure... il y a le désir d'aller voir comment, j'avais le désir de voir comment, lui... bien sûr je me suis posé ces questions, la place qu'on a dans le film, etc. Mais finalement, le désir d'aller voir comment Lucas travaillait était plus fort.
Et vous avez vu quelqu'un donc, de jeune, puisqu'il a 32 ans, différent des autres cinéastes avec lesquels vous travaillez ?
Non, je veux dire, je ne me suis pas dit je vais travailler avec quelqu'un qui a 32 ans. Je me suis dit, voilà,
oui, mais sur le terrain, est-ce que c'était différent ? Comment c'était ?
Sur le terrain, j'ai vu un metteur en scène qui a une résistance, une force de travail énorme, et puis en effet, qui nous accueille dans son univers cinématographique d'une manière particulière. C'est-à-dire que Lucas, on a commencé à travailler le premier jour où il m'a invité à Gand chez lui, et on a commencé à faire un dîner mexicain. Ça paraît désuet comme ça, mais je veux dire, j'ai coupé des citrons verts et on a bu quelques margaritas, et puis et en même temps, le costumier passait une tête et me disait, tu veux bien venir essayer un t-shirt ? N'empêche que cette intimité-là, qui se crée petit à petit de façon joviale...
En buvant.
On aurait pu le faire sans la margarita. Mais je veux dire, cette complicité se crée petit à petit. Puis en plus, Eden Dambrin, dont je jouais la mère, était là. On allait se promener dans un parc, on discutait de la vie, des choses qui n'avaient rien à voir avec le film. Et en fait, c'est très intelligent de faire ça, parce que moi, quand je repartais prendre mon train pour Paris, j'avais peut-être une fois demandé à Lucas, alors sur quoi tu veux que je travaille pour... Il me dit, quand tu reviens, je veux que tu aimes Eden. Et c'est la seule phrase, en fait, quasiment, que j'ai reçue en préparation. C'est comment naît l'amour d'une mère pour son enfant. Il faut créer la complicité entre l'actrice et l'acteur, le jeune acteur.
C'était lui, Eden.
Et c'était Eden qui joue Léo. Et le dîner mexicain, les essayages costumes. On a aussi appris j'ai appris à conduire un tracteur. On est allé travailler avec une famille d'horticulteurs. C'est pas forcément des scènes qui sont dans le film. Il y a beaucoup de choses. Mais au moins, la caméra est arrivée, mais voilà, la caméra est arrivée et on était déjà dans une... La vie et le cinéma se mélangeaient déjà.
Pourquoi êtes-vous allé chercher Léa Drucker, Lucas Dont, une actrice française ?
Parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Léa. D'abord, j'étais allé voir Jusqu'à la Garde dans une salle de cinéma et j'étais bouleversé par le film, d'abord. Bien sûr.
Où elle jouait une mère qui se battait pour garder son enfant face au père violent.
Absolument. Et je trouvais que, tu vois, chaque plan qu'elle était dedans, elle avait une énergie, une justesse, et j'étais attiré par elle. J'ai toujours ça avec les comédiens avec lesquels j'ai envie de travailler. Ça doit être une sorte d'attraction très, très forte qui existait entre moi et un Léa sur écran. Donc mais après, je l'ai rencontrée aussi au César, l'année qu'elle a gagné un César pour ce rôle. Et en fait, elle avait une gentillesse qui m'intéressait beaucoup, qui m'inspirait aussi. Quelqu'un qui était très ouverte à la curiosité, à rencontrer des gens. J'avais vu quelqu'un qui m'inspire. Et aussi, quand on a trouvé Eden, ou qu'on avait Eden, je trouvais qu'il y avait quelque chose dans la physicalité entre Léa et Eden qui était très lié.
Ah, c'est vrai qu'on pourrait croire à son fils, vraiment, oui.
Oui, et voilà, je l'ai proposé. Et je trouve, tu vois, parce qu'on parlait là tout à l'heure du petit rôle, mais je trouve toujours, moi j'ai beaucoup d'admiration pour des gens qui vont dans des films qui ne jouent pas les premiers rôles, mais oui. Parce que cette présence d'un antagoniste, une antagoniste, est tellement complexe et tellement important, et ça doit être tellement dans la même langue du film. Et voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour le travail que Léa aussi a fait sur son personnage et sur la relation avec Eden surtout.
Merci d'avoir été des nôtres. On passerait bien encore un petit peu de temps avec vous, mais on va écouter Lucas Dont, si vous le voulez bien, un choix musical de Léa Drucker que Léa nous expliquera si elle veut bien dans quelques instants. C'est une harpiste qui chante et qui s'appelle Sophie Solivo.
Don't be offended by the things that I'm gonna say.
I know you didn't mean it, but you said it anyway. Now I know it's not supposed to feel this way, but I've traveled time and space. Don't you flatter yourself, oh, just because it makes me so weak, and I hate it so. And when I get it all straight, I am gonna take my things and leave, or just give me some time.
Just give me some time.
I'm about to leave, I'm about to go, so, I'm about to put it in
Sophie Soliveau sur France Inter, Initiation.
France Inter, le grand atelier, Vincent Josse.
Je vois Léa Drucker frémir sur son petit fauteuil parce que Léa, elle aime découvrir les gens. Léa Drucker, elle aime découvrir des artistes, on le disait tout à l'heure, des plasticiens, des photographes, mais pas seulement. Vous avez une playlist très impressionnante, je m'en souviens, parce que vous aviez fait le grand atelier première époque. Et j'aimerais savoir qui est Sophie Soliveau, alors, s'il vous plaît, Madame Drucker.
Alors, Sophie Soliveau, c'est une jeune femme... C'est une harpiste, c'est une femme donc qui joue de la harpe. Je l'ai découvert il y a très peu de temps parce qu'il se trouve que pour un film, il a fallu que j'apprenne à jouer un morceau de harpe. Voilà.
Ah oui ?
Et donc j'ai été initiée par Iris Torossian, qui est une harpiste classique, qui était super. Et je me suis pris de passion pour cet instrument que j'ai eu la chance d'avoir à la maison pendant quelques temps. Et alors il se trouve que sur le tournage, il y avait une jeune actrice qui m'a dit « Ah, mais tu fais de la harpe, il faut que tu écoutes Sophie Soliveau ». Il se trouve que c'est toujours une concordance de choses. J'espère que c'est pas assommant cette histoire.
Non.
Mais j'ai en même temps lu un article dans Télérama sur Sophie Soliveau et ça m'intriguait beaucoup parce que c'était harpe et R&B et soul et c'est tout ce que j'aime. Donc j'ai écouté et je suis tombée redingue de cet artiste et j'ai pris des places, je suis allée la voir à la Boule Noire il y a deux jours.
Ah oui, vous faites pas les choses à moitié.
Ah, j'étais au premier rang et j'ai assisté à la naissance pas à la naissance, parce qu'elle avait déjà fait des concerts avant, mais j'ai l'impression d'avoir vu une star, je pense, cette jeune artiste.
Oui, vous m'avez dit pendant la diffusion, ce sera une star.
C'est exceptionnel, c'est une grande musicienne, le groupe autour est génial, il y a eu du gospel sur scène, l'album est formidable, et je la connais pas du tout, je l'ai jamais rencontrée de ma vie. Mais j'ai été au premier rang de son concert et j'ai tout oublié. Donc Sophie Solivo, je voulais venir ici avec elle.
Ben vous avez bien fait, parce que ça nous a plu. Et Solivo, ça s'écrit S-O-L-I-V-E-A-U. J'ai encore le temps, je me tourne vers Stéphanie qui réalise l'émission, de vous parler d'un film de Sandrine Dumas. Sandrine Dumas, vous la connaissez, les spectateurs et les auditeurs aussi, parce que ça a été une comédienne, théâtre et cinéma. Et elle vient de réaliser un documentaire, parce qu'elle fait beaucoup de documentaires maintenant, un documentaire qui a duré 6 ans. 6 ans de passion pour quelqu'un avec qui elle a commencé au théâtre. C'est sa marraine de théâtre, et cette comédienne, c'est Marie-Lou Marigny,
oui,
que vous aimez aussi.
Moi, j'adore Marie-Lou Marigny. Je crois que c'est peut-être une des premières comédiennes que j'ai vues sur scène, dans Peine de cœur d'une chatte anglaise.
Un grand texte, une grande mise en scène, un grand spectacle d'Alfredo Arias.
Voilà, et c'est ma mère qui m'avait emmené voir ça.
Oui, bravo Madame Drucker.
Bravo.
Mère, elle a fui Marie-Lou Marigny, cette actrice franco-argentine, l'Argentine justement en 76, l'Argentine de la dictature, en même temps que Alfredo Arias et toute leur bande de joyeux drilles argentins et excellents comédiens. Le film s'intitule Marie-Lou, parce que nous sommes encore une fois au cœur de cette relation intime entre une réalisatrice et une comédienne qui joue depuis longtemps, autant en France qu'en Argentine, autant en espagnol qu'en français.
L'espagnol a une façon d'être à moi qui n'a pas le français. Le français est acquis, l'autre est comme quelque chose qui s'adhère à l'utérus. C'est dans les ADN, c'est dans les fluides moléculaires, l'espagnol.
J'appartiens de la 4e à la 6e génération d'immigrants espagnols et italiens dans l'Argentine orientale.
S'embarquer dans une autre langue, s'embarquer dans une autre culture, c'est prendre un autre corps, développer un autre système musculaire. Et aussi, surtout au début, quand on parle dans une autre langue, on change la voix.
Ben oui, la caméra de Sandrine Dumas suit partout son sujet, Marie-Lou Marigny, dans sa vie de comédienne, au travail, car le métier de jouer est un travail de chaque minute. Nous sommes avec elle dans une loge, dans une salle de répétition, sur un plateau, on voit Marie-Lou, entre guillemets, amie de Sandrine Dumas, je le disais, elles ont joué au théâtre, devenir Marie-Lou Marigny, au contact d'un texte, sous le regard d'un metteur en scène. La comédienne est un clown quand elle joue la femme assise de copie. Son visage grimace, son corps est souple, sa voix peut-être douce ou criarde, et elle s'adapte, comme tous les comédiens, à tous ces grands rôles qu'on lui propose. Effectivement, moi je n'ai jamais oublié son visage de chatte et sa douceur, hein, dans Peine de cœur d'une chatte anglaise.
Et sa voix.
Et cette voix qui bouge. Et puis ce corps aujourd'hui touché par l'âge, il est toujours capable de grâce et de souplesse. On la voit justement le faire travailler, l'épuiser un peu avant la scène. Le film ramène aussi l'interprète en Argentine, d'où elle a le statut de vedette. C'est un passage très émouvant devant la prison où elle a été enfermée pour oser exercer librement son métier. Et on devine cette amitié et cette admiration de Sandrine Dumas pour son sujet, pour son modèle, sans doute. Sa caméra amicale contamine le spectateur. Je crois même que l'on devient un peu amoureux de Marie-Lou Marigny. Vous devez me trouver lyrique et romantique, Léa Drucker ?
Oh non, je pense qu'elle mérite bien ce lyrisme, Marie-Lou Marigny.
Elle mérite bien ce lyrisme, notre franco-argentine. Marie-Lou, c'est donc le titre du film qui vient de sortir mercredi sur les écrans. Léa Drucker, si Agnès Varda ne vous avait pas repéré à la sortie du lycée, pour jouer dans quel film ?
C'était Kung Fu Master.
Est-ce que vous seriez là devant moi ?
Je pense que oui. Alors, je ne sais pas.
Ah. Vous n'aviez rien fait avant ?
Absolument rien.
Vous aviez quoi, 13-14 ans ?
13-14 ans, et je dis une demi-phrase dans le film. Hein. Attention, j'ai un plan et une demi-phrase, mais c'est pas rien, c'est dans un film d'Agnès Varda. Mais à l'époque, oui, on avait été castés à la sortie de l'école, et on m'avait dit de venir rue de la Tour, chez Jane Birkin, et je devais lever la tête et puis dire quelque chose. Et j'ai passé une journée, j'étais enchantée, moi.
Hein, oui, puis vous avez dû dire à vos parents, c'est ça que je veux faire.
Ah bah, moi, c'était pile l'âge où j'ai commencé à dire, je veux être actrice, donc ça avait un sens, et j'étais vraiment ravie. Mais c'était mon premier tournage, je pense. C'était mon premier jour de tournage où j'avais quelque chose à dire.
C'est formidable. Il y a un rôle important l'an dernier qui vous a valu une nomination au César. C'est le rôle d'une femme qui a une relation avec son beau-fils mineur. Le beau-fils finit par en parler à son père, donc le mari de cette femme. Et vous qui jouez ce rôle, Léa Drucker, vous allez démentir.
Je lui ai dit que j'étais heureux d'avoir enfin la chance de vivre à nouveau avec lui. Combien ça m'avait manqué d'avoir un quotidien avec lui depuis qu'il était tout petit. coup, il s'est effondré. Il m'a dit que vous deux, vous... que tu as eu une liaison avec mon fils. Tu dis rien?
C'est ignoble. Insensé. Tu vas pas me dire que tu l'as cru une seconde. Ce petit morveux minable. Inventer une ignominie pareille. Et si toi, tu t'es empressé d'avaler ces mensonges, c'est que tu en avais envie.
Voilà, j'aime beaucoup cette idée que cette femme a vraiment une relation avec son beau-fils, jeune, 16 ans à peu près.
17.
17, oui, voilà. Je le rajeunis. Et que quand la vérité est là, elle dément, elle ment, elle devient une autre, elle devient sauvage. Ça doit être formidable à jouer, ça, Léa Drucker.
C'était, oui.
Redoutable et formidable.
C'est intéressant, c'était intense, parce que le matin où on se dit « je vais donc jouer cette scène terrifiante hein, », c'est une scène d'un film noir, j'avais l'idée d'une certaine couleur de la scène, d'une certaine émotion, d'une certaine... Et Catherine Breillat nous a dirigé dans quelque chose de très minimaliste, de très réservé, de très serré sur soi, et de beaucoup plus âpre, finalement.
Et ne pas éclater.
Voilà. Et elle a eu raison, parce que je trouve que ça donne une dimension, comme je vous disais, d'un film de genre, qui fait peur, hein, quelque chose d'effrayant.
Votre personnage fait peur.
Ouais. Ah ouais, à ce moment-là, c'est terrible. Oui, c'est terrible, parce que c'est quelqu'un qui s'accroche à ce qu'elle a construit et qui est prête à tout pour défendre ses valeurs bourgeoises, de famille.
Elle a une vie bourgeoise qu'elle ne veut pas perdre.
Sa carrière professionnelle, tout d'un coup, c'est d'une férocité terrible.
Il y a un dictionnaire des acteurs qui est en train de sortir, là, certainement pour le Festival de Cannes, enfin à cette occasion. C'est « À nos amours !», point d'exclamation, un florilège des actrices et des acteurs français, Gilles Jacob, Marie Coleman et Gérard Lefort. Alors, il y a tous les comédiens français et, à la lettre D, il y a Léa Drucker.
Chouette.
Vous n'êtes pas au courant, hein, ça me plaît beaucoup. Alors je vais dire en gros ce que dit le trio d'auteurs. Ils disent que au départ vous hésitez entre une inquiète ou une marrante. Ça j'aime bien cette idée parce que c'est vrai que vous avez joué les deux. Finalement vous jouez encore un peu les deux.
Oui.
Et ils ajoutent qu'ensuite vous aimez jouer les rôles d'une femme qui crie son innocence à tel point qu'on doute de son innocence. Comme dans l'été dernier, ils écrivent « Léa Drucker est plus que parfaite dans ce jeu du mensonge raisonnable où la passion folle valse avec un pragmatisme cruel d'une grande beauté jusque dans l'ombre de ses noirceurs. » Et c'est vrai,
c'est joli.
Vous pouvez, au cours d'un film, changer, montrer que votre visage n'est peut-être pas celui qu'on a vu jusqu'à présent et que ça, c'est quelque chose qui fait partie de votre bonheur de jouer.
Oui, je pense que le bonheur de jouer, c'est d'avoir la matière qui permet ça aussi, c'est-à-dire dans l'écriture d'un scénario suffisamment de gouffres et de mystères qui permettent d'alimenter des choses dans votre personnage qui sont de l'ordre en effet de la noirceur, c'est-à-dire que même si on joue un personnage qui est très solaire de deux scènes avant, c'est formidable de pouvoir tout d'un coup l'ancrer dans quelque chose dans les failles, dans la part d'ombre qu'on a tous, hein, je crois que c'est très... Alors c'est ça aussi, c'est la rencontre entre dans l'écriture un personnage et mon travail d'actrice, mais c'est aussi le regard de la cinéaste et puis le regard de la chef opératrice et tout ça, c'est quand il y a une concordance de tout ça et que ça marche, et alors ça c'est très jouissif parce qu'on est très en confiance. Et je pense que le cinéma de Breillat il permettait ça aussi, de pouvoir aller dans la part d'ombre de cette femme, quoi. Mais moi, ce qui m'importait, c'était que ce soit humain. Ça ne veut pas dire de la racheter, mais ça veut dire de trouver, essayer de faire en sorte que il y ait malgré tout de l'émotion, que ce soit pas juste un monstre et qu'il y ait quelque chose de...
Qu'on ne la juge pas en disant c'est un monstre, point.
Non, je pense qu'on est plus complexe que ça.
Il y a plutôt des points de suspension dans ce cas. C'est intéressant. Ben, je vous sens heureuse, Léa Drucker, en tout cas dans votre métier. Je ne me mêle pas de votre vie privée, ça ne me regarde pas, mais tout a l'air de bien se passer.
Je le suis.
Un tableau volé, mercredi au cinéma de Pascal Bonitzer et le 8 mai, Un homme en fuite de Baptiste Debrau. À bientôt.
À bientôt.
Stéphanie Texier a réalisé cette émission, Karen D et Louise Lemoine m'ont aidé à la préparer, Valentine Chédebois a programmé la musique, il y avait aujourd'hui la technique, Guillaume Roux. Vous pouvez réécouter l'émission et nous écrire sur franceinter.fr. Vous nous suivez, s'il vous plaît, sur la page Facebook du Grand Atelier. Samedi prochain, 17h sur France Inter, c'est la balade de Clarica. Je vous souhaite une bonne fin de journée à l'écoute de France Inter. Après le journal, c'est le rendez-vous joyeux du dimanche soir avec Charline Banonacker. Bonjour Charline.
Bonjour Vincent Jos. Oui, joyeux. Et aujourd'hui, contre le blues du dimanche soir, ça sera un électropunk du dimanche soir.
Oui. On va